Bonjour et bienvenue sur le blog Maison économe et confortable. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans ce premier podcast les résultats des enseignements que j'ai tirés d'une maison témoin que j'ai visitée avec un groupe dans le cadre d'un salon dédié à la rénovation énergétique organisé à Saint-Quentin-en-Yvelines en novembre 2017. C'est une maison dont la construction date des années 80 à ossature-bois. À l'époque, c'était un produit original. Maintenant, c'est beaucoup plus courant. Les propriétaires ont beaucoup insisté lors de la visite sur la qualité de ce type de construction. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu de ces qualités en ce qui concerne les dépenses énergétiques. La maison n'était pas spécialement bien isolée. On était à peu près dans les normes des années 80-90. Le bois, pour moi, pose un certain nombre de problèmes, notamment celle de l'énergie grise, celle qui est contenue dans la construction. On dit que les Américains construisent en bois et remplacent leur maison tous les 50 ans. À mon avis, ça représente un certain problème d'énergie pour le travail de reconstruction. La pierre, c'est quand même un matériau qui a des avantages de durabilité. Il suffit d'aller visiter le pont du Gard pour s'en rendre compte. J'ai posé la question sur les champignons, les moisissures, les insectes ravageurs. On m'a toujours répondu, mais oui, mais c'est traité. Bon. J'ai jamais eu de réponse vraiment technique sur la nature du traitement, les garanties constructeurs, etc. On sait qu'il suffit d'aller sur YouTube pour savoir qu'il y a des drames, des superbes maisons qui sont détruites entièrement au bout de quelques mois à cause des moisissures et des conflits devant les tribunaux avec des constructeurs ou des architectes qui n'ont pas travaillé correctement. La deuxième chose qu'on voit quand on arrive devant cette maison, ce sont les capteurs solaires. Alors les capteurs solaires ont été installés sur le toit très tôt, à une époque où les tarifs de rachat étaient extrêmement élevés. On a parlé là de 59 centimes d'euros le kilowattheure. Évidemment les tarifs de rachat sont beaucoup moins élevés maintenant. Et c'est plutôt une bonne chose, je pense, parce que cet argent-là, qui n'est pas forcément bien dépensé, il est payé par tous les abonnés EDF. Sous une taxe supplémentaire qu'il y a sur leur facture. Ce tarif-là, très élevé, était accordé et continue à être accordé aux gens qui acceptent de faire des capteurs solaires qui soient intégrés au bâti. C'est-à-dire qu'on démonte la toiture, on enlève les tuiles, on a couverture et on la remplace par des capteurs solaires. Bon, j'ai posé la question habituelle que je pose toujours. C'est, à votre avis, pourquoi on a tendance à tellement favoriser l'intégration au bâti, alors que si on posait les capteurs solaires sur des rails et sur la toiture, on aurait probablement moins de problèmes d'étanchéité et de problèmes pour les remplacer. Comme d'habitude, on me dit, c'est à cause de l'esthétique. Bon, je suis un peu dubitatif sur cette histoire d'esthétique, parce que ça nous oblige à marier deux systèmes, une toiture qui est appelée à durer une cinquantaine d'années, et des capteurs solaires qu'il faudra remplacer dans 15 ou 20 ans tout au plus, à les lier intimement, ça ne me paraît pas être une bonne idée technologique. En plus, il y a un argument pour lequel il faudrait que les capteurs soient un peu séparés de la toiture, c'est que les capteurs marchent bien s'ils sont bien ventilés. Le mois d'août n'est pas forcément le meilleur mois pour les gens qui exploitent ce genre d'installation, parce que les capteurs sont surchauffés, et quand la température des capteurs augmente, leur productivité diminue. Donc un petit peu de ventilation, ce serait pas plus mal. Et ça, c'est possible si on pose les capteurs sur des rails et sur la toiture. La deuxième chose qu'on a regardé quand on est rentré dans le garage, c'est le chauffe-eau thermodynamique. Alors le chauffe-eau thermodynamique, on nous annonce, il fournit de l'eau à 53 degrés. Bon, question que je me pose tout immédiatement, mais on est en dessous du seuil des légionnels, qui est normalement de 55. Pas de problème, pas de réponse. C'est un peu embêtant, parce que c'est quand même un problème sanitaire. Bon, il y a une grosse gaine isolée qui évacue effectivement l'air froid du chauffe-eau thermodynamique vers l'extérieur. Je pose la question de dire, mais finalement, cet air frais là qui est produit par le chauffe-eau thermodynamique, est-ce que ce ne serait pas intéressant de le récupérer en été pour rafraîchir le garage ou pour rafraîchir la maison? Là aussi, cette chose-là n'a pas été envisagée. C'est dommage, parce qu'il aurait suffi de mettre ce qu'on appelle une vanne pour réguler les conduits d'air, qui s'appellerait un registre. On trouve ça très fréquemment sur les moteurs de voiture, qui permettrait, en manuel ou en automatique, d'avoir une régulation, une espèce de climatisation de la maison utilisée, en utilisant l'air frais fourni par le chauffe-eau thermodynamique. Bon. C'est dommage de ne pas avoir installé ce genre de truc. Enfin bon. Pas d'informations sur la durée de vie du chauffe-eau, un investissement de 3 000 euros. Bon, il faut savoir qu'en région parisienne, on a des problèmes abominables dus au calcaire. Le calcaire est capable de tuer un cumulus qui n'est pas entretenu en 7 ou 8 ans. D'ailleurs, on peut aller sur mon entrée sur les chauffe-eau où je montre des photos et je raconte ce qui m'est arrivé avec un cumulus de 300 litres. Ceci dit, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2017-2018 va faire un gros effort, semble-t-il, sur la dureté de l'eau, ce qui est une bienvenue puisqu'on mesurait du 35 à 39 degrés, ce qui est absolument formidable. Et on devrait passer à 20-25, ce qui est encore un petit peu trop, notamment pour élever des poissons rouges. Mais c'est quand même beaucoup mieux pour la durée de vie du matériel. Et puis elle est plus agréable à boire. Donc on fait un gros effort sur la dureté de l'eau. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe avec un chauffe-eau qui vaut 3 000 euros? Alors qu'on trouve des 300 litres à Castorama, je ne fais pas de la pub, hein, mais on trouve des 300 litres à Castorama à 400 euros. Bon, c'est presque du consommable à ce niveau-là. Enfin, le plus important de la visite, ce sont les deux pompes à chaleur. Alors, il y a deux pompes à chaleur RR qui sont installées une par niveau. Chacune réchauffe un étage. Les occupants sont contents du confort, ils disent que c'est une excellente affaire. C'est vrai que les soufflants sont très silencieux. Je remarque déjà un petit détail qui m'embête un peu, c'est que vous avez des modules de chauffage à l'intérieur de la maison qui sont pilotés automatiquement par télécommande, qui sont régulés et qui soufflent dans deux pièces qui ont une grande ouverture, qui sont quasiment la même pièce. Et je me dis, bon, si on donne des points de consigne différents à ces deux. À ces deux soufflants, bon, ils vont se mettre à pomper l'un et l'autre et à avoir des oscillations comme ça toute la journée qui vont forcément avoir un effet sur leur durée de vie. Bon, enfin, je dis normalement, on ne fait pas ce genre de choses, hein. C'est-à-dire que s'il y a deux modules qui agissent sur le même local, ils sont pilotés avec le même point de consigne. Ils reçoivent les mêmes ordres, ils ne reçoivent pas des ordres différents. Le plus important, quand même, c'est finalement, est-ce qu'on gagne de l'argent avec ce truc-là? Alors, ça a été difficile d'obtenir des chiffres qui soient séparés du bénéfice de la vente de l'électricité par les capteurs solaires. La question, il n'est pas question ici de parler des capteurs solaires, il est question ici de savoir. On a installé une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique. C'est dommage d'ailleurs que le chauffe-eau thermodynamique n'est pas soit comptabilisé à part. Bon, ça nous aurait permis de faire des calculs plus fins sur le retour d'un sur investissement. On a installé donc deux pompes à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique pour économiser, pour gagner de l'argent, clairement. Et on voudrait savoir si finalement on gagne de l'argent. Alors, finalement, on obtient les chiffres suivants. C'est très simple. Sur une année type, avant l'installation, avec une installation électrique classique, c'est-à-dire avant l'installation de la PAC et du chauffe-eau thermodynamique, on avait en gros 13 000 kWh qui étaient consommés par cette maison. Bon, c'est correct. Avec l'installation du matériel, on passe à 9 000. Donc on a gagné 4 000 kWh par an grâce à ce matériel. Si on prend, moi je prends toujours la valeur conventionnelle de 15 centimes d'euros par kilowattheure. Si on prend 15 centimes d'euros par kilowattheure, on gagne donc 600 euros par an. Maintenant, le coût de l'installation complet, la PAC plus le chauffe-eau thermodynamique, c'est 21 000 euros. Bon, un rapide calcul montre que le retour sur investissement est de 35 ans, ce qui est absolument énorme. Absolument énorme. Et il est même, à l'évidence, supérieur à la durée de vie vraisemblable de l'installation. Donc cette installation ne sera jamais, jamais rentabilisée. On démontre ici que même si elle fonctionne parfaitement, ce qui sur une durée de 35 ans me paraît extrêmement hasardeux, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Cela montre surtout les capacités exceptionnelles des commerciaux à faire jouer la fibre écolo pour vendre leur matériel. Très clairement, ces 21 000 euros aurait bien mieux, à mon avis, été utilisé dans une isolation thermique par l'extérieur. C'est-à-dire, en plus, ils sont propriétaires du foncier, c'est leur jardin, c'est chez eux. Ils auraient ajouté une isolation thermique par l'extérieur, même en gardant les grille-pains d'origine ou en faisant des améliorations très simples. voir ce que j'ai indiqué dans le chauffage électrique ou les petits travaux avant l'hiver, on aurait récupéré, à mon avis sans difficulté, ces 4000 kWh pour une dépense à peu près équivalente, voire un peu plus faible, mais qui avait l'avantage de ne jamais, jamais tomber en panne. C'est-à-dire que l'isolation, ça ne tombe pas en panne si c'est bien fait. Une pompe à chaleur, même si elle est bien faite, même si c'est un très très bon technicien qui l'a installé, et même si c'est un très bon fabricant, c'est comme une voiture. À un moment donné, il faudra la remplacer. Bon, cette visite était très intéressante. Toutes les erreurs nous apprennent beaucoup de choses utiles, et je remercie ici les organisateurs, même si le commentaire que je fais ici n'est pas tout à fait ce qu'ils auraient pu espérer. Mais enfin, c'est comme ça. Moi, je dis ce que je pense. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt.